Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Du 19 au 21 avril dernier, plusieurs radios du réseau Ferrarock se donnaient rendez-vous au Printemps de Bourges Crédit Mutuel et sont revenus avec quelques lives dans leur bagage. Dans la carte blanche cette semaine, on revient sur la performance du groupe inouï alsacien nommé Pales, capté le 19 avril au 22 Doron. Extrait à retrouver en fin d'émission. Au rayon des découvertes, nous vous présentons le deuxième album de Submarine FM, intitulé Waterbending, sorti le 14 avril chez Slapknot pour une immersion à la croisée de la bass music, de la techno et de la musique ambiante. Entretien réalisé par Pac de Radio Dio à Saint-Étienne. Mais on démarre tout de suite avec Jordan de Radio Méga, qui s'entretient avec les membres du groupe toulousain Cathédrale pour aborder Words Silence, quatrième album du désormais quintet enregistré à Londres et sorti le 21 avril dernier chez All In Banana Records.
C'était Days in the Overground, un morceau extrait du nouvel album des Toulousains de Cathédrale qui sortira à la fin du mois d'avril chez All In Banana Records. Cette semaine, Words Silence, leur nouvel album, est en partenariat Ferrarock et mis en avant dans Dig Dig Diggers aussi donc. Avec ce quatrième album en presque 10 ans d'existence, le groupe du Sud-Ouest présente aussi son nouveau line-up, puisque de 3 ils sont passés à 5 musiciens. Pour parler de ce nouveau disque proto-post-pop et punk, je suis avec Jules, guitariste-chanteur, Pablo, guitariste, et Félix, bassiste et chanteur. Salut les gars!
Salut!
Salut!
Merci de m'accorder cet entretien par le téléphone et les internets. Je vous propose, avant de commencer cette interview dans le dur, de me dire quelques mots sur le titre que l'on vient d'écouter, Days in the Overground.
Ben merci pour l'accueil, hein. On avait déjà fait ce partenariat avec vous, donc c'est toujours un plaisir. Pour Days in the Overground, on l'a du coup enregistré à Londres en avril dernier. Et je me souviens qu'avec Félix, on s'était exprès laissé... on n'avait pas de paroles sur ce morceau. Et on avait décidé d'écrire les paroles à Londres justement pour s'inspirer un petit peu de la ville, de l'ambiance. Donc c'est je crois que c'est le seul morceau qui a été conçu de cette manière-là.
Ouais, c'est ça, et les paroles parlent de notre journée d'enregistrement en soi. Hein. On était tous assis du même côté, les jambes croisées du même côté. Enfin, c'était une image assez marrante dans le Overground. d'où le titre.
Alors ben justement, j'avais cette question sur la ville de Londres. Alors au lieu de vous la poser un peu plus tard, je vais vous la poser maintenant puisqu'on en parle. Vous avez enregistré chez Sid Kemp, qui est un producteur londonien, donc dans son studio Haha Studio. J'aimerais bien que vous nous racontiez comment c'était cette expérience à Londres, comment se sont passées les choses avec lui, et puis dans cette ville-là, puisque Londres, c'est quand même une ville très particulière, qui est très chargée.
Coucou, c'est Pablo qui vient me prendre le micro. C'était franchement une super semaine qu'on a passée là-bas. Sid, c'est un bassiste qui joue pour Ulrika SpaceX, c'est un groupe que Félix m'avait fait découvrir. Donc moi, quand j'avais appris qu'on allait enregistrer là, j'étais là en mode wow, ça va être fou quoi. Et c'était vraiment une super session qu'on a fait avec lui. Ça allait vraiment assez rapidement au niveau de l'enregistrement. On était bien sûr tous un peu en mode en espérant que ça allait bien fonctionner rapidement et tout ça, et tout s'est bien passé comme on le souhaitait quoi. On a réussi à enregistrer live tous les morceaux comme on voulait. Franchement, c'était de la grosse pression et du gros soulagement. Sid, c'est devenu un copain quoi aussi, on a bien rigolé avec lui. Franchement, c'était une super semaine, j'ai trop aimé.
Bon, peut-être qu'il sera sur le prochain album alors.
Bah pourquoi pas.
Je le disais en intro, vous êtes passé de trio à quintet, et vous le dites, ça a changé votre musique et votre manière de composer et d'écrire. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière, comment est-ce que ça a fait évoluer votre musique, le propos, et puis particulièrement sur ce nouvel album, la Word Silence, que vous présentez comme plus introspectif?
Ouais, complètement. Bah, du coup, avec le départ de Robin, bah voilà, pour des raisons de temps, en fait, on a accéléré. On avait aussi l'envie d'ajouter un clavier et puis des sons un peu bruitistes, plus comme on peut avoir l'habitude de faire en enregistrement, rajouter, je sais pas, des cuivres, des synthés. Là, on les a aussi en live, donc ça a aussi changé la manière de composer, de savoir que en fait il va y avoir 5 personnes qui vont pouvoir faire une partie d'instrumental ou de voix.
Puis bah, par rapport à l'album aussi, ça a changé car c'est un album de confinement, mine de rien, qu'on a tout enregistré avec Jules, c'est Félix qui parle d'ailleurs, et on a tout fait pendant le confinement sur mon ordi, enfin la plupart hein, sur mon ordi à deux, coincé sans pouvoir sortir dehors avec des masques en se parlant. Non, c'est pas vrai. Voilà, en gros, l'image est là, quoi.
Vous avez mis longtemps à l'arranger ou à le peaufiner, parce que c'était il y a quand même un moment maintenant, le confinement.
Ouais, on a pris un peu plus de temps aussi, oui, c'est ça, pour les composer et puis après les réarranger en groupe, en fait. Donc, il y a eu deux lectures en soi de morceaux à chaque fois.
Alors, vous parliez de la scène, justement, j'avais prévu de vous en parler, du live. Quelle importance vous lui donnez au live? Vous dites que ce nouveau line-up, il vous permet de passer un cap dans l'ampleur et l'incandescence du live, ça en jette comme ça, quand on lit. Ça veut dire quoi exactement pour vous?
Bah, comme disait Pablo, déjà, le live, c'est important parce qu'on a tout enregistré live sur l'album. Donc voilà, c'est une manière de faire qui est importante pour nous en studio. Et puis après, voilà, le live, c'est quand même quelque chose de super important, je pense, même pour tous les groupes, hein, de pouvoir jouer. Et bah, si je devais choisir entre studio et live, je pourrais pas choisir. Mais le fait d'avoir une personne en plus, je sais pas, je me dis personnellement que ça doit peut-être un peu grossir le son et donner plus de possibilités si à un moment donné on veut rajouter un tambourin, un clavier, une guitare. Voilà, quand on est 5, on peut faire plus de choses qu'à 4, entre guillemets, quoi.
Du coup, ça veut dire que les personnes qui vont venir vous voir en live, potentiellement, ils vont avoir droit à quelque chose de plus élaboré, de peut-être plus dans le détail de son. Vous allez vous permettre des choses qui ne sont pas sur l'album?
Ouais, ben, c'est Pablo qui parle. Le truc que ça va permettre aussi, c'est même scéniquement, quoi. On peut, bon, comme disait Jules, rajouter des éléments percussifs comme un tambourin ou d'autres instruments et tout ça. Mais aussi, là par exemple, sur le nouveau live, il y a des morceaux où Jules peut avoir la guitare qui est posée, prendre le micro... même des fois aller dans le public et tout, enfin ça, au niveau du live, ça évolue aussi comme ça, quoi.
Alors je vous propose de parler un peu maintenant de l'esthétique et l'imagerie. Vous avez réalisé vous-même la pochette du nouvel album. Vous avez des clips, votre pochette, l'imagerie, c'est une partie intégrante pour, du projet pour vous. Je veux dire, parfois, les groupes, ils accordent que peu d'importance à ce qu'on pourrait appeler de l'emballage. Mais pour vous, ça n'a pas l'air d'être le cas. Vous avez mis beaucoup d'intentions artistiques dans la pochette, je pense.
Ouais, en effet, là, déjà, la pochette, on l'a réalisée ensemble avec des bouts de papier découpés un peu de façon dadaïste, quoi, en posant, découpant, en posant comme ça et en scannant. Et là était la bonne pochette. Mais ouais, c'est ça. Et surtout sur Silent Castle, le clip, on a réutilisé des masques qu'on avait utilisés sur des clips du deuxième et du troisième album. Donc ça fait un peu un fil rouge par rapport aux anciens albums. Et là, sur Hostage Taking, vous allez voir quelques petits bouts de papier qu'on a utilisés dans le clip. En fait, tout est assez lié, en effet, ouais.
Et puis ouais, par rapport à la question de l'emballage aussi, bah disons que c'est énormément de taf de voilà de composer, d'aller enregistrer, de tourner, etc. Donc c'est vrai que quand on a le CD, le vinyle entre les mains, bah c'est enfin nous en tout cas on trouve que c'est important d'avoir une pochette qui nous corresponde. Donc voilà.
C'est une sorte d'aboutissement.
Exactement. Ouais. L'objet fini, la fin de l'album. Ou le début, enfin...
Ça participe du projet artistique, vraiment.
Voilà, tout à fait. Et puis là, la pochette, on l'a réalisée nous-mêmes pour la première fois. Donc on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Mais enfin, moi, je suis très content en tout cas. Avant, on faisait appel à d'autres artistes aussi pour justement avoir ce bel objet, quoi.
Là, du coup, le fait de faire tout nous-mêmes, c'est encore plus un sentiment de... d'accomplissement une fois que l'objet est en main, quoi. C'est tout est vraiment fait de nous-mêmes et c'est enfin ça fait plaisir, quoi.
Ouais, voilà, vous allez vraiment jusqu'au bout de la démarche, quoi.
C'est ça. Bon, après on n'a pas enregistré, enfin on a enregistré grâce à Sid, ça a été masterisé en Angleterre. On a toute l'équipe, All In Banana, le label, enfin les tourneurs, les attachés presse et compagnie, enfin on est bien entouré. On fait pas tout nous-mêmes. Ça serait un peu beaucoup, mais voilà, la pochette, en tout cas, elle est faite par nous.
Ouais, c'était important, quoi. Alors, avant de poursuivre cette interview, alors le temps file, hein, ça va vite. On va écouter un nouvel extrait de World Silence, donc de Cathédrale, c'est votre groupe. On écoute Hostage Taking. Vous pouvez nous dire quelques mots rapidement sur ce titre ?
Ouais, complètement. Bah, c'est l'histoire de quelqu'un qui déraille totalement qui est dans la rue, en fait. Il s'imagine craquer, en fait, et bah voilà, comme on j'en sais rien, quelqu'un qui attend au supermarché dans la queue, qui d'un coup va péter un plomb, va faire un burn out. Et donc voilà, toute la chanson parle de ça, et du coup ce personnage s'imagine faire une prise d'otage. Et voilà. Et à la fin, en fait, les paroles racontent que c'est juste qu'il a trop bu et que c'est dans sa tête, quoi, en gros.
Slow down. 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 This is a hostage taking. You know, just a kidnapping.
C'était Hostage Taking de Cathédrale, dont le quatrième et nouvel album sortira fin avril sur All In Banana Records. On continue notre interview avec Jules, Pablo et Félix, membres de Cathédrale, dont le nouvel album est en partenariat Ferrarock cette semaine. On en parlait juste avant d'écouter ce morceau, All In Banana, c'est votre label, vous avez eu avant Rocker Hill Records, Juvenile Délinquant, Fuzz Kill, Ave The Sound, Rat Pop Records, vous avez eu plein de labels. Quel rapport vous entretenez avec eux et puis particulièrement avec Tom de All In Banana qui vous suit pour la troisième fois sur un album?
Bah, Tom, c'est le sang, hein. C'est la famille. En plus, t'as cité plein d'autres labels. Donc, Juvenile qui nous a sorti le premier album il y a un peu de temps. Et puis après, tous les disques qui ont suivi le premier album, All In Banana a été impliqué de base sur tous les disques. Donc en fait, il a toujours été présent. Pour répondre à la question, c'est d'avoir une relation cool, je sais pas, détendue, humaine.
Avec beaucoup de compréhension peut-être.
Ouais, complètement.
C'est une chouette rencontre, quoi. Rencontre importante.
C'est ça, complètement. Puis c'est devenu un ami. Je pense que le label, de toute manière, comme on disait tout à l'heure, il est inclus dans le processus quasiment de la fin des compos jusqu'à la sortie du disque, donc c'est important qu'il y ait une bonne entente.
Alors on va continuer à parler de musique un peu, je voudrais savoir quel rapport vous entretenez avec la scène rock, autant la scène actuelle que peut-être plus la scène fondatrice, que c'est toujours un peu difficile de s'affranchir de ses influences. Comment vous gérez ça de votre côté?
C'est Pablo qui parle, juste par rapport à la scène rock, c'est... nous, on a l'impression qu'il y a que ça revient vachement, quoi. Même là, on en parle souvent. J'ai l'impression qu'il y a un regain du rock quand on écoute les prods de rap, ce qui se passe en Angleterre, là, par exemple, avec le dernier album de Slowthai ou des trucs comme ça. Le punk ou post-punk revient vachement en avant. Je trouve que, justement, ça, on a l'impression d'être presque au bon endroit, au bon moment en ce moment avec la scène rock, quoi.
Par rapport aux vieux groupes, en gros, c'est ça que tu disais aussi. Ils sont super importants. Hein, quand on cite Wire, Television, The Fall, c'est, enfin voilà, c'est des choses qu'on écoute toujours et qui nous influencent aussi dans la compo. Et voilà, je sais pas si c'était vraiment ça la question.
Oui, c'était un peu ça, c'était de savoir comment on s'affranchit de ses influences sans plagier, quoi.
C'est ça. Bah après, il y a tout qui se recycle entre guillemets. J'ai l'impression, enfin personnellement, j'ai pas l'impression qu'on fasse un truc non plus ultra nouveau. On essaye comme on peut, on fait surtout des choses qui nous touchent et qui potentiellement peuvent toucher d'autres gens. Donc voilà, après si jamais c'est un peu nouveau ou différent, bah c'est cool.
Alors on se rapproche terriblement de la fin de cette interview. Je voudrais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pourriez me citer un ou plusieurs groupes de filles de votre entourage et qu'il faut absolument suivre?
Bah, Alvida, déjà, que je vois, que j'ai vu hier d'ailleurs. Super cool, elles font un power pop années 80 que je rencontre, enfin que je recommande direct, donc voilà.
Ouais, moi je vous conseille aussi Noir Audio, c'est aussi un trio que des filles qui font comment on pourrait appeler ça, c'est de la pop, hein, pop un peu punk, enfin plutôt pop, c'est toujours dur à dire d'ailleurs, mais c'est vraiment super. Je vous conseille d'aller écouter. Elles ont fait des sessions live au Cloud Session aussi, que vous pouvez aller voir, qui sont top.
C'est des Toulousaines.
Ouais.
Noir Audio.
C'est ouais. Ça. Et Alvida, elles sont de Paris. Et après, il y en a quand même un. Il y a Automatique aussi, que j'aime bien, aux États-Unis. Alors, j'ai plus la ville en tête, mais ouais, post-punk avec un clavier. Super meuf, trop bien quoi.
Bah merci en tout cas pour cette interview. On est obligé de s'arrêter. On aurait pu parler encore pendant longtemps parce que des questions, j'en avais encore plein et j'imagine que vous aviez aussi plein de réponses.
Ouais.
Votre nouvel album, donc le nouvel album de Cathedral, Words Silence, est défendu par le label All In Banana Records et il est en partenariat cette semaine donc sur le réseau des radios associatives Ferrarock. Vous pouvez retrouver le podcast et d'autres infos sur notre site ferrarock.org. Merci les gars de m'avoir accordé cette interview et puis bah à une prochaine. Ciao.
Merci beaucoup.
Changement de cap et immersion dans la musique techno ambiante de Submarine FM qui nous présentait cette semaine son deuxième album nommé Waterbending, interviewé pour l'occasion par Pac de Radio Dio, Radio Ferrarock de Saint-Étienne.
Avec ses textures modulaires et analogiques, ses basses immersives et son kick efficace, Waterbending, le deuxième album de Submarine FM, propose un voyage aquatique entre Electronica et Techno. Sorti sur Slabnote, le label techno de la maison Jarring Effects, l'album Waterbending de Submarine FM est autant une évasion sonore qu'un manifeste en direction du dance floor. Salut à toi, est-ce que tu peux te présenter alors ?
Salut, ben moi c'est Mireille, mon nom d'artiste c'est Submarine FM et je fais de la musique électronique.
Comment est-ce que tu nous présenterais ton projet Submarine FM ?
Eh ben c'est les compositions que je fais chez moi, donc c'est un mélange un peu de techno, d'ambiance et avec beaucoup d'influence bass music à l'anglaise, breakbeat et tout ce qu'il y a autour de tout ça quoi. Et je compose avec beaucoup de machines analogiques, de synthétiseurs modulaires et d'autres petites bidouilleries comme ça. Et j'essaye un peu de faire des morceaux qui peuvent être assez mélodiques et qui font un peu voyager. Et en même temps, je suis très attaché au côté dance floor, quoi. Donc j'essaye un peu de marier plusieurs énergies comme ça.
C'est quoi ton parcours musical ?
Alors moi, à la base, je viens plutôt du rock. Mon parcours, ça a été plutôt de monter des groupes avec les potes. En même temps, j'ai toujours un peu bidouillé à côté les machines, les logiciels, etc. Et donc après, j'ai eu un peu des groupes où on mélangeait les deux. Et puis, je me suis un peu lancé aussi à faire mon projet solo, Submarine FM, avec lequel, à la base, je publiais plutôt des EP qui venaient de style dub. Après, j'ai découvert la techno, j'ai un peu mélangé les deux. Après, j'ai fait plus que de l'électro-techno. Et voilà, ça, ça a évolué, ça a beaucoup changé depuis que je fais ça.
C'est quoi les groupes que t'écoutais quand t'étais ado et c'est quoi les groupes là maintenant qui nourrissent ton envie de faire de la zik?
Quand j'étais ado, bah moi j'écoutais beaucoup de drum and bass, de dub, j'allais beaucoup dans les soirées sound system, les clubs drum aussi. Bah j'ai grandi à Lyon, donc ouais, c'était une scène qui était vachement présente avec des assos comme Total Rez, Jarring Effect, c'était mes premières soirées sound system. Et ça me fascinait vraiment, et j'étais surtout attiré par le live, comment les gens arrivaient à transmettre cette musique électronique qui vient de machines et d'ordinateurs. Et du coup, j'essayais vraiment d'aller voir le plus possible des gens qui faisaient des performances live, quoi. Et après, aujourd'hui, ben, c'est toujours un peu le cas. Après, j'ai des proches qui sont à Londres, où j'y vais souvent, et il y a une énergie dans les clubs à Londres qui me plaît beaucoup, qui est vachement plus éclaté, où en France, je trouve que c'est vachement catégorisé par style. Et les clubs, les DJ sets à Londres, c'est quand même vachement plus éclaté, les mélanges de, ouais, de niches, d'électro, machin. Donc c'est plus ça, vers ça que je tends en ce moment, quoi.
C'est quoi ton approche de la scène musicale et c'est quoi les endroits dans lesquels tu traînes?
Bah après, c'est un peu particulier, parce que comme je fais beaucoup de concerts, je vais pas avoir tendance à aller voir 1000 soirées, 1000 concerts, parce que je suis aussi vite fatigué de faire ça tout le temps. Mais du coup, moi personnellement, j'aime mieux sortir dans des petits lieux, genre les grosses soirées électro, les gros festivals, vraiment c'est un truc qui me fait pas du tout envie. Et je vais plutôt aller dans des lieux alternatifs, des squats, des soirées avec pas énormément de gens quoi. Et plutôt des propositions voilà, de live ou de choses comme ça.
Comme ton premier album Crawl, ton deuxième album Waterbending, c'est juste un album instrumental, sans mots. C'est quoi l'intention un petit peu que tu as voulu mettre dans cet album? Et j'ai envie de dire, c'est quoi les messages subliminaux que tu caches comme ça dedans?
L'album que j'avais fait avant, Crawl, il était, je trouve, en le réécoutant là, un peu dark et un peu sérieux à mon goût, quoi. Et là, quand j'ai fait Waterbending, c'était en même temps, je l'ai commencé après les périodes de confinement, tout ça. Donc j'étais vachement plus dans cette énergie-là de justement de chercher de l'électro plus solaire, des énergies plus euphoriques qui font du bien, plus festives et peut-être qui parlent plus au corps qu'à la tête, quoi. J'ai plus réfléchi le truc en mode, qu'est-ce qui m'amuserait moi là si j'avais envie de voir ça en soirée, de voir ça en live. Après, en termes de sens, moi il y a toujours un petit peu ce truc de essayer de faire un peu des textures sonores avec mes synthétiseurs, faire des sons qui n'existent pas dans la vraie vie et un peu comme faire un monde imaginaire quoi avec ces sons là et un peu de peindre un peu des tableaux quoi.
À quoi fait référence le titre Waterbending?
Waterbending, bah en fait ça fait référence à un animé qui s'appelle Avatar, donc qui est pas le blockbuster là que tout le monde connaît, c'est un animé fantastique dans lequel il y a des personnes qui ont des pouvoirs magiques de maîtriser les éléments et il y a l'airbending, le earthbending, firebending et waterbending, donc c'est un peu le pouvoir de manipuler l'eau. Et comme dans mes morceaux, souvent quand je crée des textures, naturellement j'aime bien imiter des textures qui rappellent un peu des bruits d'eau. J'essaye un peu de faire de l'ASMR aquatique avec mes synthés et après je rajoute des gros kicks et tout ça, mais du coup ça me faisait penser à ça, je regardais ça à ce moment-là, au waterbending, la faculté de manipuler l'eau pour donner plein de formes possibles. Et puis en plus ça fait une petite référence au circuit bending et toutes ces pratiques qu'il y a dans les machines de les modifier pour créer des sons encore nouveaux qui me plaît beaucoup quoi.
Pour t'avoir vu en live, du coup, ce Marine FM, c'est un beau déballage de machines et de modules. C'est quoi les machines que tu utilises ? Comment tu composes avec elles ? Et aussi, quelle place occupe l'ordinateur dans ton installation ?
Eh ben, l'ordinateur, ça va être mon magnétophone, en gros, qui sert à enregistrer tout ça. Du coup, j'utilise essentiellement un synthétiseur modulaire, donc c'est une sorte de grosse boîte en bois dans laquelle on va construire son synthé, un peu comme un puzzle, où on va acheter plusieurs petits éléments qu'on va imbriquer dans cette boîte pour se fabriquer son propre synthé, donc qui va être un peu unique. Chaque personne a un synthétiseur modulaire différent. Et ça, c'est un peu mon jouet préféré. Et pour faire de la musique avec tout ça, ce que je fais, c'est que je fais des séances d'improvisation, d'expérimentation, où je tourne les boutons, je fais des erreurs, ça crée un son auquel j'avais pas pensé. J'enregistre tout ça et après, sur mon ordinateur, je vais aller remodifier et un peu structurer tout ça pour faire un morceau, quoi. Mais à la base, je pars de plages d'expérimentation, quoi, avec tous ces jouets-là.
Et du coup, avec les séquences dans le passage au live, elle se situe où un petit peu ta liberté de jeu et c'est quoi la liberté de jeu que tu te laisses ?
Ben justement, quand, en général, je fais un morceau, une fois que je l'ai fini, j'ai pas de problème à me dire ce morceau-là, je vais faire play et rien performer. Et en fait, le plus important, c'est que les gens s'amusent et que moi, je m'amuse à le faire. Donc, je vais plutôt me demander qu'est-ce que moi, ça me fait triper de faire. Et donc, à partir de là, je vais juste enlever de mon ordinateur, par exemple, tel synthé et que je vais aller rejouer en direct live. Et donc, je vais choisir le synthé qui me fait le plus rire de faire. Et puis souvent, du coup, ça fait que à chaque concert, je vais pouvoir faire quand même un truc un peu différent parce que ça laisse une plage d'impro possible, quoi.
Maintenant, si on parlait d'actualité musicale, avec Submarine FM, en plus de cet album du coup Waterbending, il y a un morceau sur la compilation du collectif Flirt, pour un flirt avec toi, et aussi deux morceaux dont un avec Klaus Tinto, l'autre avec Koji sur la compilation Megaboom Emo. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces aventures collectives ?
Megaboom Emo, c'est une sorte de, j'aime pas trop ce mot, mais un peu un collectif qu'on a formé avec des amis. En fait, on a un peu la tradition tous les ans de partir en tournée où on va aller jouer dans les lieux de copains copaines. On met donc tous nos projets solo dans un van et puis on part sur la route comme ça. Ça fait une soirée où on propose 4 lives différents de projets solo. Donc c'est avec Klaus Tinto, Koji, il y a Océan Flunk aussi et Chapeau Chapeau. Du coup, à un moment donné, à force de faire toutes ces tournées, on s'est dit « bah ça serait cool qu'on fasse des morceaux ensemble », donc on a fait des featuring, et on s'est dit « bah ça serait cool de les mettre sur internet », donc on a fait un bandcamp, et on a sorti un premier EP comme ça, avec que des featuring entre nous, quoi. Voilà, et c'est un truc qu'on continue de faire, là on est en train de préparer la prochaine tournée, et sûrement la prochaine compile aussi, quoi.
Trop bien. Dans la scène électronique, et plus largement dans la musique, toi, comment tu vis ta non-binarité ?
Moi, je crois que jeune, j'aurais bien aimé voir plus de diversité dans les soirées dans lesquelles j'allais, parce que c'était des soirées vraiment très masculines. J'aurais bien aimé avoir des personnes trans, des personnes non-binaires sur scène, et que ça aurait pu me dire « Ah bah, tu peux être autre chose, tu peux être la personne que tu veux être. » Et du coup, ça fait sens pour moi d'assumer ça sur scène. Je parle pas au micro, y a rien, mais juste ma présence, enfin, je me dis « Voilà, assume au moins ça, quoi. » Ce que j'aurais bien aimé voir quand j'étais plus jeune. Après, dans un rapport plus humain, je vois des petites différences par rapport à quand je faisais des concerts avant, où voilà, je découvre le sexisme, le fait d'être pas pris en compte par les équipes techniques, par exemple, enfin, ce genre de petits trucs qui est chiant. Mais après, la place d'artiste, en même temps, c'est une place assez privilégiée à plein d'endroits. En vrai, d'être artiste, ça me permet aussi de m'assumer comme je suis par cette place privilégiée-là, qui est, en fait, je viens, je suis comme je suis, et je vais faire ça sur scène, et voilà, quoi. «
Et ah tiens, mais j'avais prévu aussi quelques petites questions binaires, justement, on parlait de non-binarité, analogique ou numérique ?
Ben vraiment les deux, je trouve. Que l'analogique, ça peut aussi enfermer dans un truc, refaire tout le temps la même chose, en mode c'était mieux avant, et le numérique aussi, c'est... Malgré tous ces travers, c'est aussi une énorme liberté de pouvoir aller dans tous les sens, donc je trouve que mélanger les deux, ça ouvre plein de possibilités qu'il faut pas être binaire.
Live ou DJ set ?
Bah moi personnellement plus live, je suis plus confortable avec ça. Après c'est vraiment deux médiums hyper différents et je trouve que pour communier avec les gens, les DJ sets c'est vraiment un truc trop bien quoi.
Et synthé ou boîte à rythme ?
Ah bah synthé plutôt moi ouais.
Et O ou R ?
O parce qu'il faut bien s'hydrater.
Et ma dernière question c'est quelle machine sonore te semble la plus appropriée pour changer le monde ?
Ben un mégaphone je pense, pour les manifs.
Terminons ce numéro avec la carte blanche de la semaine. Revenons sur la dernière édition du Printemps de Bourges Crédit Mutuel et sur la performance du groupe Pales, inouï de la sélection alsacienne qui s'est produit sur la scène du 22 Doron le 19 avril dernier. Une musique à la croisée du post-punk et de la dark pop, dont voici un extrait pour nos auditeurices du réseau Ferrarock dans Dig Dig Diggers. Auditeurice du réseau Ferrarock, vous êtes actuellement à l'écoute d'un extrait live du groupe Pales, sélection inouïe alsacienne, capté lors de la dernière édition du Printemps de Bourges, le 19 avril dernier.
Thank you.
Merci d'avoir écouté Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, nous vous présentions les albums de Cathedral et de Submarine FM, respectivement nommés Words, Silence et Waterbending, sortis chez All In Banana et Slapknot. Plus d'informations sur le www.ferrarock.org. Pour celles et ceux qui auraient manqué les émissions réalisées en direct du Printemps de Bourges Crédit Mutuel lors de la dernière édition du 19 au 21 avril, retrouvez-les en podcast dès à présent sur ferrarock.org.